volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubuquois. De la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinal Tap. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bruit. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez vos chakras, on commence. Mon invité dans ce nouvel épisode du volume sur 11 est, allez, n'ayons pas peur des mots, une légende du rock français. Premier album en 1981, coup de maître avec un tube qui cartonne toujours dans les soirées. Même s'il aime toujours regarder les filles qui marchent sur la plage, il a une longue discographie et va sortir en mars prochain un nouvel album, L'Homme Invisible. Je l'ai écouté, on sent vraiment l'amour du rock et des guitares. J'ai le plaisir de recevoir Patrick Coutin. Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Donc, merci d'avoir accepté de participer au volume sur 11. Alors, bon, évidemment, c'est difficile de ne pas mentionner le tube, donc on va en parler. On va aussi parler de ton actu, donc de cet album Love Invisible, dont quelques titres sont déjà sortis. Déjà, première question, en fait, pourquoi ce titre, L'Homme Invisible ? C'est quoi ? C'est métaphorique ?
Dans le rock, tu sais, tous les textes sont un peu métaphoriques. Ça vient du blues, où on a l'habitude de dire des choses sans les dire ou de dire le contraire pour dire etc. etc. Alors L'Homme Invisible, en fait, il y a beaucoup de références dedans. La première référence, c'est le livre de H.G. Wells, c'est le feuilleton qui existait quand j'étais gamin. C'est l'histoire d'un savant qui essaye de remonter dans le temps et qui trouve une formule qui le rend invisible et qui lui permet de remonter dans le temps. Puis un jour, il perd l'antidote et donc il est invisible pour de bon. Et du coup, il est condamné à se déplacer partout dans la vie des gens. Mmh. Un de ses amis lui fait une espèce de cagoule et des gants pour qu'il puisse quand même s'habiller et de temps en temps exister vraiment, mais il a cette vie d'homme invisible. Alors bon, ça m'a tout, c'est fascinant quand t'es gamin d'entendre parler de ça. Et puis on a vécu tous ensemble cette espèce de folie meurtrière qu'était la pandémie. Et c'est le moment où j'écrivais cet album avec plusieurs trucs que je fais jamais, c'est-à-dire que je regardais la télé, les infos notamment, alors que je regarde jamais la télé. Et puis j'étais comme tout le monde, enfermé, obligé d'écrire un petit papier pour sortir. Il y avait plus de bar, il y avait plus rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai annulé plein de concerts, etc., etc. Et j'ai commencé à me dire, ce qui serait bien, ça serait de pouvoir tu mets une paire de lunettes noires et tu deviens invisible, tu te balades quand tu veux. Tu fais rien, tu vois, ouais. Il n'y a rien d'illégal, rien, mais tu redeviens totalement anonyme, invisible, personne ne te voit et tu peux aller regarder les petites fleurs, regarder la scène, rentrer dans un magasin, faire tes courses tranquillement. Ouais. Donc, c'est ce balancement entre les actualités qui, tous les jours, disaient des trucs que tu ne comprenais plus parce que tu avais un savant qui te disait un truc, un autre qui te disait le contraire, des hommes politiques qui se contredisaient, enfin bref, toute une information qui était en fait ni de la propagande, ni de la vérité, ni de la fausseté d'ailleurs. Oui. Tout se percutait. Ouais. Et donc, cette envie de pouvoir vivre comme totalement invisible, et bien surtout de pouvoir sortir aussi.
Alors, si on va remonter un petit peu le temps, justement, d'Homme Invisible, pour parler de ton parcours musical. Bon, alors moi, quand je t'ai découvert, tu as été chroniqueur ou journaliste à Rock'n'Folk. Quand tu as sorti ton premier album, évidemment, tu n'étais pas le premier rock critique à être passé de l'autre côté. Moi, j'ai pensé, il y a eu Chrissy Hynde, enfin, il y en a plein. Mais comment ça s'est passé, en fait, ce basculement, à quoi tu passes du journalisme au rock? Est-ce que tu faisais du rock avant? Voilà, l'histoire, c'est quoi?
Alors, c'est plus facile de devenir journaliste que d'apprendre la guitare. Alors en fait, bah oui, bien sûr, ça prend 10 ans pour apprendre à jouer correctement de la guitare. Si tu as été à l'école, tu sais écrire à peu près le français. Alors en fait, moi j'étais musicien entre guillemets, c'était pas mon métier, mais j'avais un groupe avec mes copains, on jouait, on faisait des concerts à droite à gauche, on composait des chansons. Et puis à un moment, je suis parti vivre en Californie pendant un an ou deux, où j'ai côtoyer aussi des super musiciens, il y a beaucoup de très bons musiciens là-bas. Et quand je suis revenu en France, j'avais pas grand-chose à faire, j'avais abandonné mes études, je savais pas comment gagner ma vie. Et là, je suis passé devant Rock & Folk et je me suis dit, tiens, je veux devenir journaliste. Et je suis monté, je leur ai dit, est-ce que vous voulez que je vous écrive des articles sur les instruments de musique? Et j'ai eu de la chance parce qu'ils cherchaient ça précisément.
Ah ouais.
chercher quelqu'un capable de leur parler de matériel de musique parce qu'il y avait des enjeux de publicité avec ça.
Ah oui, c'est clair.
Il commençait à y avoir de plus en plus de ventes d'instruments. Donc, ils m'ont dit, bah, écoutez, faites-nous un papier, puis on va le lire. Je l'ai fait, et je l'ai fait, pour être honnête, en tapant l'essentiel de ce qu'il y avait dedans sur le New Musical Express, qui est un journal anglais,
ouais.
qui parlait du matériel de Genesis. Ah oui, parce que comment faire un papier sur un groupe quand tu ne peux pas interviewer un groupe, quoi, tu vois?
C'est clair.
Mais bon, ça leur a plu assez, et un jour, un mois et demi plus tard, ou un truc comme ça, j'ai un ami qui me dit hey, Coutin, t'es sur Rock & Folk. Je lui dis ah bon, je suis sur Rock & Folk. Ouais, t'as écrit un article. Je dis bah non, peut-être, j'en sais rien. Et en fait, j'ai acheté Rock & Folk, et c'était cet article que j'avais écrit, qui avait été publié direct. Alors pendant, après 3-4 ans, parce que à l'époque, journaliste ou chroniqueur, comme tu veux, ou pigiste, parce qu'on était pigiste,
ouais.
dans la musique, c'était le paradis. Mm-hmm. Les disques coûtaient cher, tu recevais plein de disques. Les concerts coûtaient cher, tu étais invité au concert, et même tu étais invité à aller voir les groupes quelquefois en avant-première en Amérique ou en Angleterre. Ouais. Donc pour un fan de musique, il n'y avait pas mieux, quoi. C'était pas bien payé, mais comme je vivais chez ma mère, bon, tout allait bien.
Mm-hmm.
Et donc j'ai fait ça pendant 3 ou 4 ans, jusqu'au jour où on a commencé à vouloir enregistrer, et on a eu un coup de chance. On a fait une journée de maquette invité par le patron du plus grand studio français de l'époque, qui s'appelait Château d'Hérouville, qui avait un dimanche de libre. Il m'avait dit, il m'avait rencontré alors que j'interviewais, je pense que c'était Magma. Ben, c'était très très mal passé, Magma était en crise dans le studio, je n'avais pas eu un mot, mais lui, il avait dû avoir un peu pitié de moi. Donc on avait un peu parlé, il m'avait dit, mais vous êtes musicien? Et bien, j'avais dit oui, etc. Il m'avait dit, ben, si un jour j'ai une journée, je vous appellerai, vous ferez des maquettes.
Mmh.
Et 2-3 mois plus tard, il nous a appelé, c'était au début de l'été, en disant, voilà, demain, dimanche, le studio Elix, si vous voulez, vous venez avec votre matériel et on enregistre ce que vous aurez. Et puis, le coup de chance, ça a été qu'en fait, le studio était libre parce qu'Igelin était en retard. Il
ouais.
était bloqué, je pense, par une histoire d'amour quelque part dans le sud de l'Espagne. Et en fait, il n'est pas venu le lundi, il n'est pas venu le mardi, il n'est pas venu le mercredi, il a dû mettre 15 jours pour arriver ou quelque chose comme ça. Et nous, on est resté là-bas 15 jours, et finalement, ces maquettes, c'est devenu un album
D'accord.
produit par le studio, produit par Laurent Thibault, qui était l'ingénieur du son et le réalisateur du studio. Et voilà comment s'est fait ce premier album. Donc, évidemment, après, c'est vrai que quand tu sors un disque, il n'est pas sorti tout de suite, hein, il est sorti pratiquement 6 mois, 1 an plus tard. Et quand tu sors un disque, c'est compliqué d'être journaliste et en même temps musicien, surtout en France.
Ouais,
donc j'ai arrêté d'être journaliste.
Ouais.
Ah ben oui, puis on aura tout le temps tendance à penser que d'autres journalistes vont dire du bien ou du mal de toi parce que t'es un confrère ou quelque chose comme ça. En Angleterre, ça serait possible, mais en France, c'était pas possible
ouais.
à l'époque. Donc j'ai arrêté le journalisme et puis ben, le disque est sorti. Après l'histoire, tu la connais.
Ouais.
On est en mars 1981. Quand le disque sort, il y a des élections en France, Mitterrand passe, du coup il y a une explosion de radio libre,
ouais.
et les radios libres s'emparent de J'aime regarder les filles, les clubs font la même chose, et ça devient un espèce de tube un peu particulier, parce que d'un côté c'était encore la belle époque de la disco,
ouais.
et d'un autre côté c'était le mouvement punk qui dominait l'Europe.
Ouais.
Et ce titre est un rock plutôt, on va dire, même s'il a une forme un peu particulière, c'est un rock plutôt classique, en fait.
Ouais, avec voilà. une ligne de basse, enfin, très, très catchy. Enfin, alors, qu'est-ce que, justement, ça, donc là, c'est presque un heureux hasard, enfin, tout à coup, un alignement des planètes. Mais alors, qu'est-ce que ça fait, justement, de cartonner, en fait, du premier coup? Ça a eu quoi comme impact sur la suite, en fait?
Alors, on va y passer la nuit parce que c'est très complexe. En fait, moi, j'étais un hippie, mais carrément, c'était ma génération, quoi. Tu vois, nous, on était contre tout ce qui était business, contre tous ces trucs-là. On faisait de la musique pour s'éclater, pour s'amuser, parce que c'était notre façon de vivre. Subitement, tu te retrouves à la télévision, qui pour nous était l'endroit où il y avait... beaucoup de foutaises, quoi, tu vois, où il n'y avait pas la musique qu'on aimait, d'ailleurs,
ouais.
pour être clair, ou très peu. Subitement, tu es invité par des gens qui ne sont pas comme toi et qui t'invitent dans des bars ou des clubs où tu n'avais pas le droit de rentrer 15 jours plus tard. Donc, tout ça, ce n'est pas si simple que ça à vivre. Moi, je n'aimais pas l'idée de la célébrité, quoi. Ça me dérangeait. je sais pas pourquoi, je me sentais pas fait pour ça. Et d'un autre côté, quand même, bon, bah, c'est une chance dans ta vie parce que subitement, tu peux jouer dans des concerts avec un son meilleur, tu peux enregistrer les chansons que tu as écrites, etc. Donc, tout ça, c'est assez complexe à résumer, quoi. Il y a un côté extraordinaire qui est le fait que les gens écoutent ta chanson, c'est quand même un cadeau du ciel, quoi.
Ouais, c'est clair.
Il y a combien de musiciens qui écrivent des dizaines de chansons et qui n'ont jamais trouvé de public et qui ont du talent. Et puis, d'un autre côté, évidemment, ça se paye, cette célébrité, tu vois. Il faut faire des efforts, il faut se raser, il faut s'habiller, il faut être à l'heure, etc., etc. Et puis, il faut assumer le fait que, subitement, tu te retrouves dans un monde qui n'est pas le tien et que, quelquefois, tu critiquais très fort, juste la veille, quoi.
Ouais.
Voilà. Mais j'ai survécu.
Et t'as sorti combien d'albums, après, par la suite, en fait, entre donc 81 et aujourd'hui, donc le prochain, donc en mars. Donc, au total, quoi, il y a plus d'une dizaine.
Ah, on est à 14, 15 ou 16, pense. Hein. Je ne sais pas trop, parce qu'il y a des rééditions par-dessus, il y a des compilations avec des titres inédits, etc. Mais en albums originaux, on doit être à 13, 14, je pense.
Ouais.
Avec donc, des chansons nouvelles, etc.
Et alors, souvent, c'est pas compliqué, finalement, d'être, je ne vais pas dire dans l'ombre, enfin, en tout cas, d'avoir toujours ce « J'aime regarder les filles », qui est le titre, ou peut-être même en live, les gens attendent que tu le joues, alors que tu as peut-être plein d'autres titres. Tu n'as pas eu la tentation de faire, je ne sais pas, une approche à la Bob Dylan qui massacre consciencieusement tous ces tubes pour être sûr qu'on écoute autre chose ou qu'on n'ait pas envie de le prendre pour un jukebox?
Non, j'ai pas besoin d'être Bob Dylan pour massacrer mes propres chansons. Ça m'arrive comme à tous les musiciens. J'ai jamais eu envie de le massacrer parce que je pense que d'abord c'est un coup de chance. Grâce à J'aime regarder les filles, je vais n'importe où, je peux rencontrer les musiciens du coin, j'ai pu produire des albums, j'ai pu faire du studio. Et quand même, moi qui étais d'une famille d'ouvriers plutôt modeste, c'est quand même, ça a remplacé, pas un énorme, mais un petit héritage, on va dire. Ça m'a donné un nom, ça m'a donné une stature, et ça m'a surtout permis de faire ce que j'adore faire, c'est-à-dire composer, jouer de la guitare et chanter. Parce que j'aime pas tellement être dans le devant de la scène, la célébrité, quand on me reconnaît dans la rue et tout, ça a tendance à me gêner, mais par contre, j'adore composer, j'adore faire de la musique, j'adore la jouer. Tu vois, c'est vraiment, ça a pris une place immense dans ma vie. Donc, une fois de plus, tu sais, c'est un petit peu comme les deux faces d'une pièce, une noire, une blanche, je dirais. Il y a le côté super qui fait que ça m'a changé ma vie et que ça m'a permis de vivre comme je voulais, librement, de voyager, de rencontrer les meilleurs musiciens du monde. Ouais. Et puis, d'un autre côté, il a fallu que je m'adapte à faire attention à toi quand tu sors pour pas sortir comme un clodo, parler business avec les maisons de disques, répondre à des interviews qui étaient au départ une chose, je comprenais pas qu'on puisse s'intéresser à moi, etc., etc. Mais bon, d'une manière générale, si tu fais le bilan d'un titre comme J'aime regarder les filles dans la vie d'un petit môme de banlieue comme moi, il est très largement positif. Après, est-ce qu'il a occulté d'autres titres? Oui, mais pas forcément non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que, est-ce que d'autres personnes auraient écouté d'autres titres si j'avais pas eu J'aime regarder les filles? C'est pas sûr non plus. Tu vois. Donc, c'est juste comme ça. Simplement, je sais une chose, je sors un album, on va me parler de J'aime regarder les filles.
Oui, c'est ce qu'on fait pour l'instant.
Voilà, mais bien sûr. Mais je pense que si tu penses Picasso, si je te dis Picasso, tu vas dire Guernica. C'est donc, il vaut mieux. Ou en tout cas, c'est inévitable d'être identifié à la chose la plus connue qu'on a faite, quoi. Ouais. Il faut s'y faire ou pas, ou tu quittes ce métier, quoi.
Ouais, non, c'est clair. Par la suite, bon, qu'est-ce qui t'inspire, en fait, dans ta façon de composer? Qu'est-ce qui vient d'abord? Est-ce que, donc, tu parlais effectivement d'apprentissage de la guitare, c'est quoi? C'est une idée, c'est des mots, c'est un riff. Parce que je sens quand même que tu aimes bien quand même ce rock classique, voilà, très, très, très guitare, d'ailleurs, ce qu'on entend énormément dans l'album à venir, d'ailleurs.
Oui, c'est ma musique, c'est la musique de ma génération. Je crois que tous les 10 ans, il y a une génération qui s'identifie à une musique un peu différente de celle d'avant, même si elles se ressemblent toutes un peu, hein, tu sais. Oui, oui. C'est toujours à peu près les mêmes accords, les mêmes trucs, mais les sonorités changent, les thèmes, les paroles changent. Moi, c'est ce que je veux dire. Moi, au départ, ce que je voulais faire soit du cinéma, soit faire soit écrire des livres. Et ce qui m'a beaucoup plu dans la chanson, c'est que c'est rapide et que tu peux tout de suite coller une émotion. Tu n'es pas obligé de raconter une histoire entière. Tu peux juste raconter une émotion. tu croises une personne dans la rue, tu as une émotion, hop, t'en fais une chanson, quelques mots, un refrain, un couplet. Moi, je compose tout à la fois. Ouais. Je compose, et quand je dis je compose tout à la fois, je compose avec une guitare à la main, avec les paroles, et puis je chante ma chanson, jusqu'à ce que toutes les paroles soient là.
Ouais.
Et quand toutes les paroles sont là, en général, il y a un riff qui est sorti. Quelquefois, je fais tout de suite une deuxième guitare parce que j'ai entendu quelque chose. Mmh. Et une fois que tout ça s'est noté, ben, je peaufine, soit avec des musiciens, soit en studio, pour que la chanson soit complète. Mais moi, par exemple, j'ai des gens qui m'envoient des textes d'enfer, j'en ai encore reçu il y a quelques jours, et je ne sais pas écrire une musique dessus, quoi. Ah, j'arrive pas.
D'accord.
Il faut que les paroles, la mélodie et la guitare sortent ensemble.
C'est marrant que tu mentionnes le cinéma, parce qu'effectivement, dans les titres du dernier album, enfin, là, c'est que j'ai eu la chance d'écouter, il y a effectivement des petits films, il y a plein de petites histoires, quoi. L'histoire de la balade de Jesus Cat, ou L'homme invisible qu'on écoutera tout à l'heure, il y a un récit. Enfin, c'est, et puis quelque part, enfin, alors ça, ce son très, très américain d'ailleurs, c'est, ça donne envie d'aller se balader sur les freeways. Il y a quelque chose de. Ouais. Cet album, tu l'as enregistré donc aux États-Unis, ça, à Austin.
Ouais, c'est ça. Écoute, ben, c'est un peu toujours la même histoire de ce confinement qui n'en finissait pas. Alors, j'avais écrit des chansons. J'avais l'objectif de faire un album à l'ancienne, parce que j'ai aussi fait des albums entièrement en studio avec des machines, des choses comme ça. Moi, je pense que tout est marrant dans la musique. Quoi. Une chanson avec une guitare espagnole, c'est bien. Une chanson avec de la techno, c'est bien aussi. Il suffit d'avoir la chance de réussir ce que tu veux faire et que ça parle aux gens, tu vois.
Oui.
Donc j'ai un peu traîné à droite et à gauche dans la musique, mais là je voulais vraiment revenir aux sources, au départ un petit peu. On parlait, j'aime regarder tous les filles tout à l'heure, à ce que je faisais quand j'étais gamin, c'est-à-dire on était trois dans un studio, une guitare, une basse, une batterie, quelquefois une deuxième guitare, et puis j'arrivais avec une chanson, puis on a joué, puis pour nous elle était finie, tu vois. Puis la fois d'après, bon, on l'a joué un peu différemment, elle était finie une deuxième fois. Et je voulais vraiment retrouver ce sentiment dans lequel tu ne te prends pas la tête, tu ne réfléchis pas trop, tu chantes ta chanson. Donc, j'avais composé un album qui devait être simple à jouer, qui devait être spontané à jouer. Et on était en France, c'était la fin du confinement, on était en février, ça ne marchait pas. Tout ce que je voulais monter comme petit groupe, comme studio, il y avait toujours un truc qui ne marchait pas, un musicien qui n'était pas là, le studio qui avait un problème. Bon, en même temps, moi, j'étais un peu... Franchement, ces confinements, moi, ça m'a mis la tête dans le seau, quoi, tu vois.
Ouais.
C'était vraiment très triste. On a annulé 40 concerts, on a vu personne pendant le truc. Moi, je suis en plus un solitaire, donc quand t'es condamné à la solitude et que t'es déjà solitaire, tu vois, oui, ce que je veux dire. Il y a un moment, tu te dis, putain, la solitude, c'est bien, mais... Oui, c'est bien, mais quand tu peux sortir et rencontrer des gens, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et un jour, c'est en train de... C'était une nuit, il était 3h du matin, je dormais pas, je bouquinais. Et puis, je me suis dit, tiens, j'irais bien faire un tour à Austin, parce que j'ai déjà beaucoup travaillé à Austin. J'avais enregistré là-bas des chansons pour moi, j'avais enregistré aussi deux albums pour Dick Rivers, un album pour Les Vents Passent, et puis j'avais travaillé pour d'autres artistes dans le studio d'une star américaine qui s'appelle Willie Nelson, qui avait accepté de me louer, je crois, un des rares qui ait jamais pu louer son studio, parce qu'il aimait bien les Français, je suppose. Et donc, 15 ans plus tard, parce que ça, c'était il y a 15 ans, je me suis dit, tiens, j'irais bien faire un tour à Austin. Donc, j'ai été regarder, parce qu'avec le net aujourd'hui, malheureusement, il y en a qui avaient disparu, il y en a que j'ai pas retrouvé. Et un soir, quand même, j'ai réussi à retrouver le guitariste avec lequel je travaillais beaucoup là-bas, qui s'appelle David Grissom, qui est un gars du niveau de John Mayer, etc., etc. C'est un mec qui est un fantastique guitariste, qui a joué avec John Cougar Mellencamp, un des Kings, produit des tas d'albums, etc., etc., qui est un monstre à la guitare. Et je lui dis, ça va, David? Il m'a dit, oui, et toi, Patrick, comment ça va? Je lui dis, ça va, bon, on a un peu papoté par Internet. Et à un moment, il me dit, mais tu sais, tu devrais venir faire un tour à Austin et faire un disque chez nous. Il me dit ça en rigolant. Il me donne un petit sourire, d'ailleurs. Je lui dis, ouais, pourquoi pas? Tu peux me trouver 3 semaines de studio? Il me dit, je regarde. Et 2-3 jours après, on était le 22 février, 2 ou 3 jours après, il me dit, écoute, j'ai 15 jours de studio en décembre dans un super studio que tu vas adorer. Alors je lui dis, non, décembre, c'est trop loin, je n'ai pas le temps d'attendre. Il me dit, quand est-ce que tu veux enregistrer? Je lui réponds, ben moi, je vais enregistrer là, la semaine prochaine. Là. J'ai mes chansons, je suis prêt, on peut y aller quand tu veux. Et 2 jours après, il m'a dit, écoute, dans une dizaine de jours, j'ai dans un endroit que tu vas adorer, j'ai 2 jours et demi, 3 jours de studio, dans un endroit qui est tenu par un ancien manager du Grateful Dead, à côté d'Austin.
Ah
Et
oui.
j'ai le meilleur batteur d'Austin et un des meilleurs bassistes américains. On les a 2 jours. J'ai écouté ce que tu m'as envoyé parce que je m'ai envoyé mes chansons, c'était un clic, une guitare et une voix. Il me dit, j'ai écouté, on peut faire ça. Si je prépare bien les trucs, on peut faire ça et il te restera une journée pour chanter les titres. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Je suis arrivé, le lendemain, on était en studio, le groupe jouait, on a fait 5 titres par jour. Le dernier jour, j'ai chanté 3 fois les 10 titres, c'était
Ouais.
fini.
Ah oui, c'est
Voilà.
à l'ancienne, quoi, rapide.
Oui, mais en même temps, avec une qualité de musicien qui
Oui.
est assez extraordinaire.
Ça s'entend. Ça s'entend sur le disque. C'est très, très fort. Alors, quel a été ton premier grand choc musical? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, en fait, qui t'a donné envie de faire de la musique?
Non, honnêtement, quand j'étais gamin, c'était pas mon rêve. J'ai très tôt lu, quand j'avais 12-13 ans, une de mes profs m'avait fait découvrir Sartre, la mythologie grecque, Kerouac aussi, qui est un grand écrivain américain. J'étais intéressé par le cinéma et la littérature. Et la musique, à l'époque, quand j'avais cet âge-là, c'était des choses qui étaient fantastiques. C'était Brel, c'était Brassens, c'était une musique qui était d'un très haut niveau, mais c'était pas très excitant pour un gamin. Tu vois, là-dessus étaient arrivés les yéyés, c'était déjà un peu plus drôle, mais bon, c'était un autre monde, quoi. Nous, on ne croisait pas, moi j'habitais en province, on croisait pas ce genre de trucs, d'artistes. J'avais acheté le premier disque de Johnny, ou un des premiers, qui s'appelait Retiens la nuit, c'était pas le premier, mais que je trouvais très très bien, c'est qui est vachement bien écrit, et pour cause, j'ai appris par la suite que c'était Aznavour qui l'avait écrit, mais c'était pas mon rêve d'être musicien. Et puis, après, je suis monté à Paris en mai 68, quand mes parents ont déménagé. C'était le moment où il y a eu cette espèce de révolution des jeunes en France, où je me suis très vite, très tôt engagé, parce que je trouvais que c'était, d'abord, c'était marrant. Et deuxièmement, je trouvais qu'il fallait ça, quoi, que notre pays était quand même un peu encroûté avec que des hommes vieux qui dirigeaient, que tu rencontrais, dès que tu voulais faire un tout petit travail, tu tombais sur un mec qui avait 40 ans de plus que toi à l'époque, quoi, tu
Oui,
vois.
c'était oui.
Et donc, c'est pénible, quoi. Tu vois, tu parlais à ton prof, ah oui, mais monsieur Coutin, vous rêvez ou quoi? Bah oui, monsieur, je rêve. Et là-dessus, cette histoire de mai 68, qui est partie un peu comme une gigantesque fête, en 2 ans, elle a commencé à tourner en autre boudin avec des choses qui, soit ça s'est cassé la gueule, mais aussi des choses qui tournaient mal, comme les brigades rouges, tu vois ce que je veux dire, tous ces trucs-là. Et en même temps, était arrivé le rock anglais, c'est-à-dire le rock des années 67, 68, avec des groupes comme Led Zeppelin, avec des groupes comme les Rolling Stones, avec des groupes. Les Beatles, c'était déjà fini à l'époque, mais on avait déjà eu un peu les Beatles pour nous mettre en bouche. Et avec tous ces groupes américains, Jefferson Airplane, les Doors, le Grateful Dead, enfin bref, etc., etc., qui étaient engagés. C'était les premières fois qu'on entendait parler de, par exemple, d'écologie. C'était la première fois qu'on voyait toute une jeunesse et sa musique se dresser contre la guerre au Vietnam. C'était la première fois qu'on entendait des chanteurs prêcher pour la liberté sexuelle, l'égalité absolue entre hommes et femmes, entre tout le monde d'ailleurs. Donc tout ça, ça correspondait totalement à moi ce que j'avais envie de vivre. J'étais évidemment contre toute forme de guerre. On voyait à quel point nos parents avaient souffert de la guerre, parce que
Oui,
nos
ça.
parents avaient fait la guerre, mon père avait fait des guerres en Indochine, etc. On voyait à quel point c'était, t'avais des croix de partout, des monuments aux morts de partout. Maintenant, on les cache, les monuments aux morts en France. Mais à
C'est
l'époque,
clair.
tous les villages en avaient un. Donc, cette philosophie un peu hippie, mais un peu moderne aussi, correspondait à ce qu'on voulait. En fait, elle a pris la place de la politique. Et là, on s'est jeté dans la musique en se disant, eh ben, on va faire des chansons et on va continuer ce qu'on a commencé en faisant danser les gens, en mélangeant les filles et les garçons. Donc au début, c'était ça notre truc. C'était de dire la fête, bon, puisqu'on ne peut pas changer le monde politique, puisqu'on ne peut pas changer la façon dont les gens travaillent, etc., etc., et ben, dans les fêtes qui sont les nôtres, nous les jeunes, on va créer un monde où on va pouvoir s'amuser, vivre librement, planer, etc., etc. Donc C'était ça le moteur pour aller vers la musique. On s'est dit, là, il y a quelque chose qu'on peut faire, ça nous appartient, en fait.
Ouais.
En réalité, la musique, le rock'n'roll, ça nous appartenait.
Alors, quel a été le premier concert auquel tu es allé, pour le premier contact, justement, avec ces groupes, avec le live, en tant que spectateur?
Alors, je pense que le premier concert que j'ai vu, c'était, je crois, un concert de il s'appelait ce groupe qui chantait Smoke on the Water. Ah, ça y est, j'ai
oublié. Deep Purple.
Deep Purple, dans une île à Saint-Ouen, dans un palais des sports à Saint-Ouen. C'est la première fois que j'ai réussi à aller à un concert. Ça coûtait très cher hein, quand tu étais un petit gamin de Sarcelles. Pour avoir les 15 francs que ça coûtait, c'était 2 mois d'argent de poche. Et donc, c'est le premier concert. Et puis après, j'ai été voir des concerts de Soft Machine, du Pink Floyd. Et puis petit à petit, il y a eu de plus. D'abord, il y avait très peu de concerts en France. Hein.
Oui.
C'était exceptionnel. Quand tu voyais Deep Purple ou Yes venir en France, c'était passé dans le Palais des Sports, qui n'est pas une si grande salle que ça. Mmh. Et tout était plein tout de suite, quoi.
Ouais.
Et j'ai vu Laurent aussi dans un théâtre à Paris, mais on n'en a pas vu tant que ça. On a commencé à en voir quand les festivals en Angleterre ont commencé.
Ouais.
Où là, on a pu aller dans des festivals. Il y avait les grands comme Watt, mais il y en avait des petits à droite à gauche. Puis on a commencé à aller en Angleterre, évidemment.
Ouais.
Et où là, alors là, c'était le paradis hein, du rock de partout.
Ouais. C'est tout le paradoxe de faire du rock en fait dans un pays qui n'est pas fondamentalement un pays de rock en fait. Hein. Il y a toujours ce clivage rock variété ou qui perdure.
Ouais, mais moi, il ne me dérange pas ce clivage. Je vais t'expliquer, je vais te dire pourquoi. Parce que tout le monde dit variété avec un petit côté un peu péjoratif. Mais la variété, c'est la France. On a des Italiens, des Belges, des Finlandais, des Anglais, des Portugais, des Espagnols. En fait, la musique populaire en France, c'est la musique de tous ces gens-là. C'est ça qui fait la variété.
Mmh.
En Amérique, c'est beaucoup plus simple. Tu as la musique qui vient d'Angleterre, qu'on va appeler, qui a donné la country, un peu mélangée avec les trucs qui viennent d'Allemagne, mais très peu. Et puis le blues, qui est la musique majeure, qui en fait est une musique qui vient d'Afrique, en réalité, qui vient de l'esclavage. Donc eux, ils ont pas tellement le choix. Ils jouent forcément du rhythm and blues, du rock, c'est la même chose. C'est les mêmes chansons. Tu prends une chanson rhythm and blues, tu la transformes en rock. Du folk, qui est, il suffit que tu l'accélères un tout petit peu, et ça devient du rockabilly, qui est très proche du rock aussi. Nous, on a cette musique de variété, avec souvent des paroles très intéressantes, mais avec des climats très différents. Et d'ailleurs, pour les jouer, c'est très compliqué. Les musiciens français sont des musiciens qui sont obligés d'avoir, de tout connaître, quoi.
Ouais.
Alors qu'un bon musicien de rock, il joue du rock. Bon, donc ça, c'est la France. Il y a quand même eu des mouvements rock intéressants en France. Hein. Il faut se rappeler du punk rock, qui est un mouvement qui, d'ailleurs, a encore de l'importance. Il y a quand même eu des bons groupes de rock. Il y a eu des groupes, on va dire, de variété, mais très inspirés par le rock, comme Téléphone. Des groupes de rock comme Trust, qui ont fait quand même des morceaux solides. Donc, il y a eu quand même, tu vois.
Oui.
Et spécialement, quand moi, j'étais mon premier album, on avait une scène rock française qui n'était pas aussi belle qu'en Amérique, aussi belle qu'en Angleterre. Mais on avait cette scène rock, et pour nous, c'était la musique de ce qu'on était, c'est-à-dire que nous, on était minoritaires dans ce pays.
Oui, tout à fait.
À l'époque, moi, j'étais jeune, regardais les filles, on voulait nous faire faire le service militaire. Moi, qui suis antimilitariste, c'était un drame. D'ailleurs, je suis parti. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas s'étonner à ce que le rock, qui représente ça, était une musique un peu minoritaire. On était nous-mêmes minoritaires.
Oui, c'est clair. Effectivement, les années 80 ont été une super période, justement, pour l'éclosion de toute une scène, avec plein de villes, en fait, avec des groupes très, très marquants. Ça a donné une dynamique, ça c'est clair. Tu te souviens du premier vinyle que t'as acheté, le premier vinyle rock?
Alors, il y avait dedans les Rolling Stones, il y avait dedans, quand j'ai commencé à pouvoir en acheter, il y avait dedans... il y avait dedans tous les groupes anglais, les Soft Machine, les Caravan, Led Zeppelin, bien évidemment, Black Sabbath, qui est probablement le premier Black Sabbath. Et pour être honnête, il y a 3/4 de disques que j'ai toujours, d'ailleurs, parce que ceux qui m'ont pas été piqués, je les ai toujours, je les ai pas achetés, je les ai volés, quoi. Tu vois. Parce que on avait, bien sûr, j'avais trois disques fantastiques qui sortaient tous les mois.
Ouais.
Chaque disque coûtait environ ce qui serait 25 € aujourd'hui. Et moi, j'étais étudiant, j'avais 17 ans, et j'avais l'équivalent d'1 € d'argent de poche par semaine. vois ce que je veux dire. Donc, il dit, comment voulais-tu que je m'achète les disques? C'est-à-dire, la majorité des étudiants de l'époque piquaient même leur bouquin d'études. On ne pouvait pas se les payer. Donc, si tu avais un bouquin que tu voulais vraiment avoir, tu allais chez Gallimard et tu jouerais, quoi. Et quelquefois, d'ailleurs, les vendeurs te laissaient faire. Hein. Parce qu'ils savaient bien qu'on ne pouvait pas y arriver. On bouffait au resto universitaire pour rien. Le ticket de métro, c'était rien. Donc, ça allait, on pouvait se déplacer. Mais on ne pouvait pas ni aller ni au Saïd. Moi, c'était la première fois que j'étais au restaurant, j'avais 25 ans. On n'avait pas d'argent, pour tout dire. Mais on n'était pas, je ne veux pas dire qu'on était malheureux, on n'était pas dans la misère, parce que ce pays ne vivait pas dans la misère. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui dormaient dehors, etc. etc. Ouais. Mais c'était des objets de luxe. Mais c'était cette musique. Quoi. King Crimson, par exemple, que j'ai toujours. Led Zeppelin. Puis après, on s'est branché sur la musique américaine. Les Doors, premier album que j'ai acheté d'eux. C'était la fin, c'était les Who, et puis le Grateful Dead, et puis ça a suivi, tu vois. Et puis après, on a découvert le blues et les anciennes musiques, et on a commencé à amasser des albums, à trouver des albums qui dataient des années 1950, ou des choses comme ça.
Retour aux racines. Alors, on va écouter ton single, L'Homme Invisible, donc un extrait de l'album L'Homme Invisible. C'est une histoire intéressante parce que ça raconte, enfin, moi, comme je l'ai perçu, voilà, c'est l'envie d'aller s'isoler, de tout couper, d'aller en haut de la colline. C'est le choix d'un isolement volontaire, en fait. Donc, c'est marrant que tu l'as écrit pendant le confinement, avec cet isolement, et tu racontes l'histoire d'un type qui, OK, on ferme tout et on va... C'est quoi? C'est une ode à la liberté? C'est quoi le...
Cette chanson, elle a beaucoup à voir. Comme je te dis, je regarde pas la télé, je regarde pas les infos, je lis les journaux, simplement. Tu vois, pas tous les jours d'ailleurs non plus, mais quand même un peu. Et là, tu avais un temps dingue, tu foutais rien de la journée. Donc tu passais de la 1 à la 2, à la 3, à la 4. Et il n'y avait que des infos dans cette affaire, tu vois, pratiquement. Et toutes les infos disaient tout et son contraire.
Ouais.
Et à un moment, je me disais, mais je suis en train de devenir une espèce d'imbécile qui croit tout ce qu'on lui raconte. Donc, un matin, on disait, on a un nouveau vaccin. Le soir, on disait, ah ben non, le nouveau vaccin ne marche pas. Le matin, on disait, ah ben, il y a eu 10 000 morts. Ah oui, mais non, il n'y en a eu que 5 000. Tu ne savais plus. Tu ne comprenais plus rien. Et pour moi, le haut de la colline, c'est l'endroit où il n'y a pas de télé, essentiellement. Tu vois ce que je veux dire? C'est dire, je sors de ce monde qui est un monde virtuel pour essayer d'avoir un monde vrai où tu es en haut de la colline, tu vois la ville à tes pieds, tu vois la campagne, tu vois des animaux, tu vois des arbres. Tu n'es pas enfermé dans une maison où finalement tu n'as comme fenêtre sur le monde que la télévision, qui est d'ailleurs un truc... très intéressant, parce que quand j'étais gamin, la télévision, on l'ouvrait une heure par semaine.
Oui, c'était en noir et blanc et trois chaînes.
Il n'y en a même pas, il n'y en avait qu'une au début. Oui, aujourd'hui, je me souviens, quand il y a eu la 2, c'était une catastrophe, parce que les télévisions n'étaient pas prêtes à recevoir la 2, la deuxième chaîne. On allait racheter un téléviseur. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont toute la journée avec les infos sur la radio, à la télévision, etc., qui est quand même une espèce de douche un peu pernicieuse à laquelle tu es soumise. Quoi. Tu vois, il faut avoir beaucoup de libre-pensée pour résister à ce qu'on te raconte.
Non, c'est clair.
Et l'homme invisible, c'est un mec qui pouvait sortir de cette maison et aller dans la nature, en haut de la colline. Après, la solitude, quand tu es créateur, tu as besoin de solitude. Écrire une chanson, et bien la faire, ça demande du temps. Écrire un clip, ça demande du temps. Il faut une certaine forme de solitude. Je suis un solitaire qui adore les gens.
C'est joli comme...
Voilà. Je sais pas comment te le dire, mais...
Non, mais c'est...
J'adore mes amis, j'adore sortir pour les voir. Je marche dans la rue, je regarde les gens. Je veux dire. La moitié de mes chansons, je les écris en regardant une fille ou un mec passer, ou une vieille dame, ou quelque chose. Et je suis passionné par les gens et par la vie, mais c'est vrai que j'ai besoin d'espace autour de moi pour pouvoir faire ce que j'aime.
Super. On écoute L'Homme Invisible. Le regret est une ancienne rien. Donc on va passer à l'interview express. Donc c'était L'Homme Invisible, donc extrait de l'album de Patrick Coutin, L'Homme Invisible, qui va sortir le 3 mars, hein, c'est ça ?
C'est cela.
Très bien. Alors, question, pour une raison difficile à définir, enfin je sais pas, voilà, attaque de zombies, retour d'une pandémie, on doit fuir, les Russes arrivent, etc. Si tu vas garder qu'un seul album de toute ta collection de vinyle, de cassette, de CD, de MP3, qu'est-ce que t'emportes ?
Je crois que j'emporte Harvest de Neil Young.
Magnifique.
Je t'avouerai que je vais tricher. Je vais faire semblant d'emporter une valise avec des vêtements et je mettrai dedans un peu de Dylan, un peu de Doors, un peu de Rolling Stones, un peu de Led Zeppelin. Et puis après, je vais mettre des trucs dans mon téléphone, enregistrés en douce, etc., etc. Si tu me demandes ça, c'est que vraiment l'heure est grave. Hein, tu vois ce que je veux
dire. Oui, c'est ça. Non, mais voilà, ouais. On imagine le pire. Et alors, si tu ne devais garder mais qu'un seul titre de tout ce que tu as pu écouter, de tout ce que tu as dans tes collections, le titre avec un grand L et un grand E. Est-ce qu'il y a un morceau qui est vraiment ce que tu places au sommet de tout ?
Pour des raisons qui ne sont pas simplement l'enregistrement du disque, ouais. Mais aussi pour toutes les fois où j'ai vu sur scène jouer de façon différente et extraordinaire, ça serait Street Fighting Man des Rolling Stones. Parce que c'est aussi toute ma vie, quoi.
Ouais. Oui.
Un manifestant qui se sert de la rue pour changer le monde et qui finalement n'y arrive jamais, mais qui a ce rêve et en plus, il y a cette espèce de rythmique un peu sauvage. Ce sont des versions sur scène qui sont extraordinaires.
Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un titre, un album, une musique, un style musical qui te plonge dans une tristesse absolument insondable ?
Oui, la musique classique que vous entendez, j'aime bien.
Effectivement, effectivement. Alors, dans ce cas, une fois que t'es bien, qu'on est bien au fond du trou, qu'est-ce que tu écoutes pour revenir à la surface, justement, pour redonner le coup de booster et se remettre en forme?
À moi, ce qui me donne la patate, c'est le rhythm and blues américain. Ça va de Ronettes à Prince, en passant par James Brown, etc. Quoi, parce que c'est une musique d'ailleurs qui parle souvent du blues, des difficultés en amour, dans la vie, etc. Mais qui a cette espèce de vitalité qui est faramineuse, quoi. Il y a ça, et il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, mais qu'on connaît moins, c'est la musique africaine, avec notamment Fela Kuti ou des choses comme ça, qui aussi me donne une envie de vivre, de voyager.
Tu as partiellement répondu tout à l'heure quand on parlait du clivage rock-variété, mais est-ce qu'il y a des titres, des artistes ou des sons ou des styles musicaux auxquels tu es complètement rétif, enfin, tu dis, ah non, c'est pas possible, voilà, tu peux pas écouter ça, tu peux plus écouter, ça bloque.
Oui, je sais pas comment définir ces styles, mais dans la musique, dans la pop actuelle, il y a des choses que je trouve vraiment très très mauvaises. Pas tout, hein, il y a des choses qui sont super. Mais il y a plus vraiment de limite entre les très grands artistes, parce qu'il y a des très grands artistes, y compris qui ont 18 ans, 20 ans, et qui font des choses qui me mettent à genoux. Et puis des tas de trucs qui sont un petit peu vraiment de mauvais goût, de mauvaise qualité, pas bien fait. C'était peut-être le cas déjà avant, d'ailleurs, j'en sais rien, mais moi je suis un branché musique, donc quelquefois je mets mon téléphone, et puis je prends ma douche, et je mets des playlists, même, pour écouter un peu ce qui se fait. Il y a du très bon, parce qu'il y a des grands artistes dans toutes les générations, mais je trouve quelque chose d'un peu, ça me met mal à l'aise quelquefois, tous ces gens qui ont l'air jeunes, d'ailleurs, qui ont l'air malheureux, qui font tous à peu près la même musique, les mêmes harmonies, etc. T'as un petit oh, ouais, c'est pour s'amuser la musique, les enfants.
Est-ce qu'il y a des... Alors là aussi, on rentre vraiment dans le détail. Est-ce que tu as quelques petits plaisirs coupables, des choses que tu écoutes un peu en loose day, ou alors quand tu les écoutes, ton entourage te dit, Patrick, est-ce bien raisonnable? Je ne savais pas que tu écoutais ça.
Non, 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 il y a beaucoup de choses que j'aime, mais j'aime pas tout dans tout. Tu vois ce que je veux dire? Je peux écouter du jazz, mais par exemple, j'écoute Coltrane, mais il y a du jazz qui me plaît pas. Bon. Non, ce qui rend un peu fou mes amis, mes enfants, c'est quand je me fais, par exemple, une crise de Grateful Dead pendant 2 jours, où là, pendant 2 jours, j'écoute 10 albums à la suite du Grateful Dead, qui est un truc que, personne, sauf un fan du Grateful Dead, ne peut supporter, quoi. Et là, au bout d'un moment, tu sens quand même que les mecs trouvent que c'est fort, qu'il faudrait baisser pendant que tu manges, etc. Mais bon. C'est ça mon péché mignon. Mais c'est pourquoi? Parce que c'est mes années californiennes, le Grateful Dead. J'ai vécu là-bas, et c'était la musique avec laquelle on vivait. Donc, c'est ma Madeleine de Proust.
C'est incontournable, quoi. Parce que ça, oui, ça correspond à une séquence de vie. Voilà, c'est la bande son, quoi.
Voilà. Voilà, c'est ma bande son de 2 ans de vie.
Est-ce qu'il y a un artiste, un groupe que tu places, alors là, au sommet de ton panthéon personnel, si tu as un panthéon personnel?
Ça dépend dans quelle catégorie, parce qu'il y a les auteurs-compositeurs, il y a les chanteurs, il y a les musiciens. Pour moi, l'artiste le plus fantastique qu'on ait connu de mon vivant, c'était Jimi Hendrix. Parce qu'il invente une. Il arrive et il joue de la guitare d'une façon que personne n'a jamais pu imiter. D'ailleurs, quand tu l'imites, c'est mauvais. C'est une étoile filante. Il a une conception de la vie et de la mort qui sont très très fortes, très violentes presque, quoi, tu vois. Et c'est, je dirais, le noir américain qui s'impose dans la musique blanche à l'époque. Parce qu'il ne faut pas oublier que, même si on était dans une période où on voulait s'ouvrir, il y avait quand même une musique blanche et une musique noire en Amérique. Et Hendrix a été vraiment l'artiste qui a explosé ça dans le rock, quoi. Mais c'est surtout un guitariste hallucinant, quoi.
Ah, ça c'est assez dingue. À part ça, est-ce que tu as des livres cultes ou des films cultes? Tu mentionnais Kerouac, tu mentionnais certaines lectures. Est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont venues nourrir ton imaginaire ou tu as finalement les histoires que tu racontes dans tes chansons?
Alors, indiscutablement, Kerouac, Sur la route, est le livre qui a changé ma vie.
Oui.
Donc, il y a Kerouac, ça c'est clair. Il y a aussi plein d'auteurs un peu moins populaires. Par exemple, moi, j'ai beaucoup lu du Sartre quand j'étais jeune. Et puis, je lis pas mal quand même. Alors, il y a des auteurs qui sont totalement inconnus, mais que je cherche. Et puis, je suis un très grand lecteur de mythologie grecque et romaine.
On va terminer cet entretien, enfin, cette rencontre par un titre. À part ça, tout va bien. Où tu fais un constat, on va dire, évidemment. Alors, c'est un peu dans la même logique que là. Donc, je sais que dans quelles conditions l'album a été composé, je comprends mieux. Mais c'est vrai que tu fais un bilan assez désabusé de notre monde qui, oui, à part ça, tout va bien, quoi. Tout part en vrille, mais à part ça, voilà. J'allais te poser la question, est-ce que tu es pessimiste? Mais alors, t'écouter, non, en fait, j'ai pas l'impression que tu sois pessimiste. Tu aimes la vie, tu vois ça, mais c'est vrai que voilà, le point de départ de ce titre, c'est aussi cette période étrange qu'on a vécue pendant 2 ans, là, ce pandémie, confinement.
Oui, tu peux réfléchir un petit peu, parce que c'est vrai que là, on a eu le temps de réfléchir. C'est une chanson qui parle d'une chose, c'est que l'homme est en train de détruire la planète sur laquelle il vit. À force de surconsommation, de surproduction, de surenfantement, parce qu'on est beaucoup trop nombreux, y compris dans des villes qui ont été faites pour beaucoup de gens, de sur tout ce que tu peux imaginer, trop de produits chimiques, etc., etc., enfin dans tous les coins. Donc moi je connais ça, cette espèce de lutte pour préserver la planète, je connais ça depuis mes 16 ans. Les premiers écologistes comme René Dumont, etc. Et c'était une préoccupation qu'on avait, nous, parce que nous, quand on était gamin, on parlait de retour à la Terre et de vivre dans la nature. Et tu t'aperçois que tu en entends toujours parler. C'est un peu comme les ascenseurs pour handicapés dans les gares, quoi. Tu vois, ça fait 25 ans que tu es au courant d'un plan qui doit doter toutes les gares d'ascenseurs pour handicapés. Et tu prends le train avec une grosse valise, t'es pas handicapé, mais tu souffres parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Assez, en tout cas, et pas de bon. Ouais. Donc, sauver la planète, ce qui semblerait une évidence.
Ouais.
Hein, c'est comme si on devait chez toi et que tu te mets à mettre le feu dans ta maison. Je dirais, dis-moi, c'est pas un peu con ce que tu es en train de faire, là. Nous, c'est un peu ce que l'on fait.
Ouais.
Et depuis une dizaine d'années, on avait l'impression que finalement, on avait pris conscience de ça et qu'on était peut-être en train de retourner la situation. Et puis, quand tu t'intéresses au truc et que tu regardes les choses, tu dis, mais pas du tout, c'est de pire en pire, en fait. Non seulement on n'a pas ralenti notre folie destructrice, mais elle accélère tous les jours un tout petit peu. Et même quand on nous explique qu'on est en train de faire quelque chose de bien pour la planète, si tu réfléchis bien, souvent, tu t'aperçois que c'est pas si bien que ça. Ça sert peut-être à relancer l'industrie, à relancer des choses. Mais donc, moi, je n'ai jamais pensé que le travail d'un artiste, c'était d'être un artiste militant. Je pense que la musique, c'est fait pour s'amuser, c'est aussi fait pour réfléchir, d'ailleurs, pour raconter des histoires. Mais je ne me suis jamais imaginé comme ce qu'on appelle un artiste. Je suis engagé dans ma vie, mais pas comme un artiste engagé. Je ne suis pas un militant de la... Mais là, je me suis dit, je ne sais pas, j'avais envie de dire ça, de dire attention quand même, là, ça devient trop. Et c'est vrai, à part ça, je ne suis ni pessimiste, ni grognon, ni négatif, rien du tout, quoi, tu vois. Ouais. En dehors du fait que tu vois des problèmes et que de temps en temps il faut quand même les dénoncer, la vie, l'amour, les amis, les voyages, tout ça c'est quand même merveilleux, toujours. Quoi.
Ouais. Bah, c'est une belle phrase de conclusion. Donc on écoute, à part ça tout va bien. Et alors on rappelle donc, la sortie de l'album, donc, c'est le 3 mars, donc L'homme invisible. Et tu as des dates, une tournée, quelques dates de concert prévues pour accompagner ça?
Alors, il y a quelques dates, on va les annoncer bientôt, mais il y a surtout une date qui est le 21 mars à la Bellevilloise, où on va jouer essentiellement le nouvel album. Donc c'est un peu la release party, comme disent les Anglais, le concert de sortie de l'album, où on va retrouver nos amis, etc., etc., pas très loin d'ici, pas très loin de Belleville. Voilà.
Ouais. Eh ben, c'est noté. Merci beaucoup, Patrick, pour cet échange.
Merci, Antoine.
À bientôt sur scène.
Continuation.
Merci beaucoup.
Ouais. À bientôt.
Bientôt.
Au revoir.
Un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois. La musique du générique a été composée par Nezik. Pour plus d'informations, ou pour écouter les épisodes précédents, retrouvez-moi sur mon site, levolumesur11.com.